Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un homme qui repousse régulièrement, voire constamment, sa zone de confort. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Version homme.
Hicham El-Zarq, bonjour.
Bonjour Yasmine, merci pour l'invitation.
Merci infiniment d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va Hicham?
Ça va très bien, alhamdoulilah.
Ouais.
Très très bien, ça
Alors,
fait plaisir.
Hicham, toi tu es dans l'entrepreneuriat et tu es en fait dans une forme d'entrepreneuriat assez particulière, c'est l'éducation, tu montes des groupes scolaires, c'est bien ça?
Effectivement, okay. Effectivement.
Alors, avant de parler de la particularité de ce domaine, quand on décide de se lancer dans cette forme, dans ce genre de projet, est-ce qu'un jour tu t'attendais à toi-même monter des écoles?
D'accord. Alors, en tout cas, quand j'étais à l'école, j'avais un profil d'un élève moyen plus. Je n'étais pas très brillant, je n'étais pas non plus... paresseux. C'est-à-dire que j'étais moyen plus ou j'avais toujours ma moyenne et plus. Ça dépend des matières. J'étais beaucoup plus scientifique, mathématiques, physique, chimie, etc. Mais tout ce qui était littéraire, comme l'histoire géo, arabe, etc., j'étais un peu moyen moins. Mais j'étais, on va dire, dans l'ensemble, j'étais moyen plus où je me sentais très, très bien au niveau de ma moyenne vers la fin de l'année. Par contre, quand j'étais étudiant, c'est vrai que j'imaginais jamais être dans l'entrepreneuriat, déjà parce qu'on
ouais.
n'était pas formé pour ça, on n'était pas initié par rapport à ça.
Et pas éduqué, cette génération justement n'était pas éduquée à l'entrepreneuriat.
Exactement, on n'avait pas initié par rapport à l'entrepreneuriat, on ne connaissait rien sur l'entrepreneuriat. C'est venu après, quand j'ai commencé l'université, c'est à partir de là où... Je voyais que vraiment, après plusieurs stages de formation en cours de mon cursus universitaire, là, j'ai senti que j'ai vraiment envie de faire quelque chose moi-même plus tard.
Mmh.
Maintenant, il fallait passer bien sûr des étapes. C'est d'acquérir de l'expérience, connaître des domaines différents.
Mmh.
Donc moi déjà, je suis déjà diplômé d'une université américaine dans l'ingénierie. Donc j'étais beaucoup plus orienté l'ingénierie, c'est purement technique. Donc j'ai commencé ça par la suite. Donc il fallait bien sûr travailler dans ce domaine-là d'abord. J'ai commencé éventuellement par des stages et par la suite j'ai travaillé quand je suis rentré au Maroc. Et c'est à partir de là où j'ai choisi carrément une orientation que je vais vous expliquer peut-être.
Absolument.
Pour votre dans la discussion. Prochaine question, j'imagine.
Alors, justement, voilà. Par rapport à ce domaine d'entrepreneuriat assez pointu qui est l'éducation, les écoles, etc., en général, c'est une histoire de famille. Donc, je comprends, c'est votre cas ou ce n'est pas votre cas? Est-ce que c'est une histoire
Exactement.
De famille aussi?
Exactement. Alors déjà, moi, depuis tout petit, j'ai bien sûr grandi dans un cadre où, mon père, c'est l'initiateur de l'enseignement supérieur privé au Maroc.
D'accord.
Donc, c'est lui qui a commencé l'enseignement supérieur au Maroc. Donc, je voyais son exemple comme, bien sûr, c'était mon idole. Donc, c'est tout à fait normal. Il est toujours mon idole. Donc, je me voyais peut-être un jour suivre... son parcours professionnel. Donc, du coup, quand je suis rentré au Maroc, donc j'ai commencé, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une société de télécommunications via satellite qui rejoignait plus ou moins ce que j'ai fait comme cursus universitaire. Et par la suite, c'était plus ou moins évident de rejoindre un jour son groupe scolaire à l'époque, c'était dans les années 2000, début 2000, où j'ai commencé par des créations de filières, etc. Et c'est à partir de là où je me suis dit, je veux m'orienter vraiment dans l'enseignement. Parce qu'avec le temps, on commence à développer une passion, développer un amour vers l'enseignement, parce qu'on voit l'évolution, que ce soit des étudiants dans le supérieur ou carrément dans la petite enfance, etc., on voit l'évolution des élèves. Et c'est vraiment une passion qui se nourrit avec, en cours du temps. Et c'est à partir de là où je me suis dit, demain après-demain, j'ai vraiment envie de créer quelque chose.
Et de faire que ça.
À moi-même.
Ouais.
Voilà.
Alors, donc, avant d'aller sur justement ça, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur cette relation. J'ai l'impression que je posais une question de psy, la relation au père. parce que vous avez dit, voilà, au bout d'un moment ça s'est fait naturellement, mais j'ai l'impression que avant il n'y avait pas vraiment cette discussion. Est-ce qu'il vous préparait subtilement ou bien il n'y avait même pas cette discussion entre vous de peut-être un jour, eh bien Hicham prendra le flambeau?
Non, il n'y avait pas de discussion, mais c'était plutôt naturel. J'ai travaillé avec mon père pendant 9 ans dans le supérieur. Du coup, j'ai beaucoup appris de lui, sa façon de faire, sa façon de communiquer, sa façon de convaincre les gens
pour
choisir une filière en particulier, etc. Et j'ai développé tout ça naturellement avec le temps.
Alors, donc, pardon, Hicham,
c'était mon...
ces 9 ans, justement, avec votre père, est-ce que c'était une fois que vous aviez décidé que vous alliez vous lancer dans ça, ou bien c'était avant? Parce que, par exemple, dans d'autres discussions que j'ai pu avoir, quelqu'un me disait, moi, dès l'âge de 9 ans, chaque été, je passais un stage dans l'entreprise familiale où je donnais un coup de main. Alors, c'est pour ça que j'essaie de comprendre, en fait, les approches. Quand il s'agit de business de famille, les approches sont différentes. Certains font grandir les enfants dans l'environnement. D'autres, voilà. Pour vous, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai jamais fait de stage. Je partais avec lui de temps en temps à l'école pour voir un peu comment ça se passe, etc. Mais ce n'était pas un stage officiel. Donc, j'ai pratiquement jamais travaillé avec lui auparavant. Après, quand je suis rentré, comme j'ai dit, je me suis orienté vers ce que j'ai fait au niveau universitaire. Par la suite, c'est venu tout seul, où j'ai rejoint le groupe. Et à partir de là, on a commencé à développer, à créer, etc. Maintenant, en termes de relations, je n'ai jamais eu de stage où il m'a imposé de faire un stage ou quoi que ce soit. C'est venu tout seul. C'est-à-dire du jour au lendemain, on a décidé de rejoindre le groupe et c'est parti de là. Voilà, c'est parti de là.
Alors,
certes que c'est...
On dit que travailler en famille, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai? En toute honnêteté.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait normal. Il y a une relation père-fils, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut toujours gérer les situations et se dire que c'est mon père, c'est lui mon boss. Bah, automatiquement, il faut qu'on gère, et la même chose pour lui. Donc, je suis son fils, je suis dans la boîte avec lui, donc on gère la situation. Mais l'objectif, c'est de rester toujours professionnel.
Est-ce que c'est facile de faire le distinguo?
C'est pas facile.
Non,
c'est pas facile. Ça, c'est
j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour le... Corrigez-moi si je me trompe, c'est plus compliqué pour les pères que pour les enfants.
Moi, je dirais que c'est compliqué pour les deux, parce qu'il faut gérer le côté père-fils, le côté sentimental aussi. Donc, du coup, je reste toujours son fils, il reste toujours mon père. Donc, du coup, il fallait gérer cette situation... Où il faut rester toujours professionnel. C'est ça le plus important. Parce que là, on est là pour travailler, pour avancer, pour,
comment on reste
pour avoir des résultats, etc. Quand on rentre à l'école, il faut différencier le côté père-fils et rester professionnel. C'est ça le plus important. C'est pas facile, mais s'habituer depuis le premier jour. Comme ça, il faut rester professionnel. Et il y a bien sûr que... Il y a des résultats qu'il faut réaliser, il y a un développement qu'il faut faire, etc. Donc, il faut rester professionnel.
Comment vous gérez le volet de l'innovation, justement? Parce que deux générations différentes, deux approches différentes, deux mindsets différents. Comment vous faites par rapport à ça?
Tout à fait. Ouais, dans ce cas-là, donc, comme, c'était un peu difficile, certes, parce que je suis rentré dans un groupe qui existait depuis des années.
C'est ça, oui.
Mon idée, c'était de développer, d'enrichir, de ramener du nouveau. D'ailleurs, depuis que je suis rentré, j'étais toujours dans l'innovation et dans la, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. Je gérais pas ce qui existait auparavant. J'étais dans au début, j'avais créé des petites formations comme les délégués médicaux, comme des agents de distribution. À l'époque, dans les grandes distributions, c'était le boom dans les années 2000. Par la suite, j'ai créé des masters. Donc, j'étais toujours dans la créativité, dans le développement, créer des masters ou des filières qui n'existaient pas auparavant. D'accord. Dans le groupe. Donc, j'étais aussi orienté vers le partenariat, vers l'international. C'est-à-dire créer des diplômes en double diplôme, enfin des filières en diplomation, diplôme marocain, ouais. Diplôme français. Et c'était pas au début, c'était pas évident en termes d'insertion parce que je n'arrivais pas éventuellement à tout insérer. Mais on a créé quand même quelques filières qui ont bien sûr excellé par la suite, qui ont donné vraiment des résultats par la suite. Et c'était ça l'objectif, en fait. Donc, il fallait gérer entre ce qui existait et l'histoire de l'école avec, éventuellement, ce que je voulais, éventuellement, mettre en place dans le groupe.
Alors, justement, voilà, vous avez évoqué l'insertion, parce qu'on a l'impression, en général, qu'un groupe scolaire, eh bien, il forme, mais après, il lâche les gens dans la nature. Mais l'insertion, c'est aussi un volet que vous mettez en avant, que vous prenez à cœur.
Effectivement, on avait des partenariats avec des sociétés et bien sûr vers la fin du cursus des élèves, des étudiants, donc automatiquement on fait appel bien sûr à nos partenaires ou même on fait appel à des sociétés en général s'ils ont besoin de stages pré-embauche et on arrivait à insérer une bonne majorité des élèves, si ce n'est pratiquement le tout quoi, c'est-à-dire la génération, enfin, je voulais dire
la promotion.
Toute la promotion, voilà, je cherchais le mot. Toute la promotion, on arrivait quand même à l'insérer vers la fin de l'année.
Ouais.
Et parce que, comme j'ai dit, c'est parmi les premières écoles supérieures privées, donc elles étaient connues sur le marché, les entreprises connaissaient bien sûr le niveau des étudiants, et ou bien ils nous appellent pour nous demander des stagiaires pré-embauche ou on les contactait et on arrivait quand même à insérer pratiquement toutes les promotions.
Oui.
En général.
Alors, aujourd'hui, les challenges continuent. Vous n'êtes pas une personne qui apprécie la zone de confort, en fait.
Ouais.
Parce que ce groupe existe depuis Exactement. Longtemps. Vous avez développé vous-même des filières, des formations. Vous avez apparemment de bons KPIs avec l'insertion. Donc, ça vous permet forcément de mesurer l'impact de vos formations. Mais là, vous vous lancez dans un nouveau challenge. Mmh.
Exactement, c'était un grand challenge, exactement. Bah, écoutez, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une personne avec qui on a eu des discussions, c'est une personne qui fait partie de la famille de ma femme, où on a bien sûr développé une discussion et avec le temps, on a décidé de créer carrément un groupe scolaire, de petite enfance jusqu'au baccalauréat, où on a démarré, c'était en 2012, c'était le démarrage. En fait, c'est que...
Donc ça, c'est votre vrai bébé.
Premièrement, exactement, c'est mon vrai bébé à tout point de vue, du nom de l'école jusqu'à l'architecture des infrastructures, comment bien sûr c'est fait, comment c'est réfléchi, etc., jusqu'à l'orientation pédagogique à l'époque, jusqu'au recrutement de toute l'équipe, que ce soit administrative ou pédagogique. Et c'était vraiment une grande réussite.
Alors Hicham, si vous permettez, justement, quand on lance son propre bébé et que finalement on vient d'un groupe familial, que le patriarche est là et c'est lui qui a, on va dire, initié tous les projets.
C'est pas la même chose.
Pas du
tout.
Mais il ne peut pas s'empêcher.
C'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même chose, mais il ne peut pas s'empêcher de ne pas donner, j'imagine, ses conseils. Ne serait-ce que de père à fils.
Oui, effectivement. Alors là, j'étais dans la créativité, dans le développement au niveau du groupe supérieur avec mon père. Certes, on va appeler ça zone de confort, mais juste après, quand j'ai commencé le projet, là, j'étais tout seul. J'étais avec une personne qui a bien sûr. elle a cru en moi, elle m'a fait confiance, etc. Et on a commencé ce projet-là. Donc à ce moment-là, j'avais tout sur le dos. Donc il fallait vraiment réussir. Et quand on se lance, on ne voit que la réussite. On ne peut pas voir autre chose que la réussite. C'est ça l'entrepreneuriat. Parce que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des risques, il y a toujours des complications, ce qui est tout à fait normal. Parce que si c'était facile, ben, tout le monde l'aurait fait. Donc du coup, ce sentiment de prendre le risque et d'aller vers l'avant dans la créativité, et c'est ça qui me pousse à aller encore vers l'avant.
Oui, parce que là, vous êtes sur un nouveau projet encore.
Exactement. Et à partir de là, il n'y avait plus de zone de confort. J'étais obligé éventuellement de tout gérer au début. Il faut que tout marche et bien sûr ça, et que ça continue dans le temps.
J'imagine que vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez marié. J'imagine que vous aviez des enfants, donc on a une responsabilité. Est-ce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat alors qu'on est père de famille, comme on dit, quelle pression on ressent. Moi, j'aimerais bien que Hicham me sorte ses tripes. Bah, écoutez, dit, voilà, est-ce que c'est compliqué, en fait?
Oui, certes, il y a une pression parce que vous avez une responsabilité, mais quand les enfants sont encore en bas âge, donc on se dit qu'on peut prendre encore plus de risques parce qu'ils sont encore petits. Ah. Si on ne prend pas le risque là tout de suite, quand est-ce qu'on va le prendre? Donc, du coup... À l'époque, en 2011-2012, je me suis dit, il faut vraiment prendre le risque, c'est le moment. J'étais dans mes trentaines, donc c'était plus ou moins facile à faire. Maintenant, plus on avance, plus il y a de responsabilités, mais on prend toujours un risque, mais c'est un risque qui est plus ou moins équilibré. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on prend un risque qui est plus ou moins limité, et en même temps, on se dit que c'est maîtrisé. Le risque est lié. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans risque,
sans risque
ça n'existe
exact.
Pas. Donc du coup, quand on prend un risque, il faut qu'il soit plus ou moins maîtrisé par rapport à l'âge quel âge on a,
la responsabilité qu'on a.
Avec les enfants, etc. Donc il faut toujours équilibrer entre le tout pour pouvoir avancer. Et alhamdoulilah, je suis arrivé à le faire à chaque fois où j'avais un challenge à prendre. C'était aucun problème, alhamdoulilah.
Est-ce que parfois vous vous dites, oui, finalement, j'avais ce groupe déjà prêt, celui de mon père, pourquoi ne pas rester dans cette zone de confort et voilà, ça roule, développer ce qu'il y a à développer, mais c'est pas tout monté from scratch. C'est vraiment... Est-ce que parfois on a envie de se dire, mais pourquoi? Pourquoi je me fais ça,
exactement.
En fait?
Alors, pour vous dire, c'est que vous m'avez posé la question tout à l'heure... quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous l'avez déjà quand vous étiez jeune ou pas? Maintenant, peut-être que c'était c'était en moi, ce sentiment d'aller vers l'entrepreneuriat un jour. Certes que j'avais un confort à l'époque, mais dans moi, je voulais carrément sortir de ma zone de confort et me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Et la prise de risque aussi, c'est quelque chose que je sens prendre aussi. Parce que je me dis, si je ne prends pas de risque, je ne vais pas avancer.
Votre père, il a pensé de ça, justement?
Il m'a encouragé.
Ouais, un père ne se sent pas abandonné, en fait, par son fils, non?
Non, pas du tout. Il a vu que c'était une opportunité à l'époque. Il m'a encouragé, il m'a dit oui, c'est une opportunité qu'il faut saisir et il fallait se lancer.
Ouais.
Donc il m'a encouragé au maximum qu'il pouvait à l'époque.
Alors pour finir justement, Hicham Zerk, est-ce que vous êtes encore prêt à soulever de nouveaux challenges?
Ah oui. À chaque fois j'ai l'opportunité, je vais pas m'arrêter là. Certes que j'ai des idées que j'aimerais éventuellement développer par la suite. J'ai des projets aussi en tête que j'aimerais vraiment atteindre. Je pense que j'ai encore le temps, donc je ne vais pas m'arrêter là, ça c'est certain.
Même donc, si ce n'est plus la trentaine, c'est la quarantaine à présent.
C'est la quarantaine, mais on est encore jeune, il y a encore, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a encore à faire. Et on ne va pas s'arrêter, Inch'Allah. Ça, c'est certain.
Hicham Zerk, merci infiniment d'avoir été ma version homme d'aujourd'hui.
Merci Yasmine pour l'invitation. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Hein.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien. Et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.